lire la Bible dans la parole de Dieu, dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Un jour, j'étais à l'époque sapeur-pompier professionnel à Carpentras, cette belle ville de Carpentras, hein. Et il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a eu comme une tornade sur la ville. Ça a déchiré beaucoup d'arbres, mais également des gouttières, des volets. Et je me suis retrouvé sur une intervention avec l'échelle, donc l'échelle qu'on déploie pour aller décrocher donc des gouttières parce que c'était dangereux dans la rue. Et là, j'arrive, donc c'était, je pense, un couvent ou je ne sais plus trop quoi. Et il y avait une religieuse qui m'a accueilli en me disant: c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse. Alors moi, Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ. Et révélation de Jésus-Christ, ça ne me faisait pas peur, mais elle avait peur. Donc j'ai compris qu'elle était épouvantée par ce qui s'était passé. Et que c'est vrai, quand on dit Apocalypse dans le monde en général, eh bien on pense à quelque chose de destructeur et de terrible. Amen. Mais moi, ça m'a fait du bien de pouvoir parler avec elle ensuite. Amen. Voilà Apocalypse chapitre 2, verset 17. Nous lisons que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est inscrit ou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous savons une chose, c'est que les noms dans la Bible ne sont pas utilisés simplement pour distinguer une personne d'une autre, mais bien souvent c'est pour montrer, eh bien, le caractère particulier d'une personne. Quelquefois même c'est la mission qui va être quelque part la destinée de cet homme ou de cette femme. En tout cas, les noms dans la Bible ont souvent une grande importance. Ils nous disent aussi quelque chose sur, eh bien, les attributs, tout simplement, et les circonstances de la vie de cette personne-là. C'est pourquoi, eh bien, plusieurs personnages de la Bible ont vu leur nom changer. On va en voir quelques-uns tout à l'heure, hein. Généralement, on remarque une chose, c'est qu'après qu'ils aient changé de nom ou que leur vie ait pris un nouveau tournant, une nouvelle orientation, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Vous allez comprendre ce que je dis. Alors, j'aimerais voir avec vous quelques personnages bibliques dont le nom a changé, mais également la vie. Et ce qui les entourait également. Par exemple, je pense que tout le monde a entendu parler d'Abraham. Je dis bien Abraham, qui va devenir Abraham. Amen. Dans le livre de la Genèse, cette fois-ci le premier livre de la Bible, au chapitre 17, et au verset 4, nous lisons: Voici mon alliance, c'est Dieu donc qui parle, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Un changement de nom, hein, disait dans la Bible, est toujours le signe d'une nouvelle relation avec celui qui le donne. Le nom d'Abraham, changé en Abraham, nous le voyons par là, avec ce premier personnage. Donc cet homme va prendre une nouvelle identité. Pour cela, eh bien, il y a eu, je dirais, un épisode antérieur à ce changement de nom, au cours tout simplement duquel Abraham, à un moment donné particulier, va cacher son identité. Il va se sentir en danger et pour quelque part préserver sa vie, eh bien, il va cacher son identité. Une famine surgit sur la terre. Abraham et son neveu Lot ont beaucoup de bétail. Ils ont des biens assez grands, dans le cheptel en tout cas avec les animaux, bien sûr. Et au point de, pour ne pas qu'ils périssent, eh bien, ils vont devoir quitter Canaan pour aller dans le pays d'Égypte. En Égypte, il y a là un dirigeant. Il va voir et s'apercevoir que Sarah, la femme d'Abraham, est une très belle femme. Elle l'intéresse, bien sûr. Et Abraham, à ce moment-là, a peur. Il est dans la crainte. Il a peur de dire que cette belle femme, c'est son épouse. Parce qu'il dit, il risque de s'en prendre à ma vie. Vous voyez? Il est un pays étranger. Peut-être même pays hostile. En tout cas, Il va dire un mensonge. Il va présenter donc sa femme comme sa demi-sœur, bien sûr. Alors, il espère ainsi s'attirer les grâces et les faveurs des dirigeants de l'époque. Yes, thank you. Toda ou grazie. Non. Toda, vous savez ce que c'est, Toda? Fabienne, où elle est? Toda. Merci en hébreu. Alors, donc, je disais que cet homme va devoir mentir. C'est bon? Voilà. Alors, ce mensonge nous montre qu'Abraham, finalement, ce n'était pas un personnage tellement extraordinaire. Capable de mentir. Vous savez, on monte ces personnages-là très importants. Ils sont importants, bien sûr. On va voir que leur exemple probant, il faut le suivre, bien sûr. Alors, Abraham, c'était un homme de foi, mais il était faillible. Tu peux comme nous tous. Il a répondu à l'appel de Dieu lorsqu'il était encore loin de Canaan. Mais ce n'est qu'après être passé par des épreuves, les épreuves du temps, que Dieu va, quelque part, changer son nom. Le texte commence ce changement en disant dans Genèse chapitre 17, verset 5, « Désormais, tu ne seras plus Abraham, qui signifie « père élevé », mais Abraham, qui signifie cette fois-ci « père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » Donc la transformation de ce nom en celui d'Abraham n'a pas d'explication étymologique, je dirais, satisfaisante. Toujours est-il qu'il devient une autre personne. Après ce changement, ce n'est plus le même homme. Il ne ment plus pour se défendre ou pour quelque part préserver sa vie. Au contraire, il va aller jusqu'à élever le couteau pour, égorger son propre fils quand Dieu le lui demande. Offre-moi ton fils, ton unique, ne te trompe pas. Isaac, ne te trompe pas. Donc, il est prêt à faire ce que Dieu lui demande, alors que cet enfant avait été tellement attendu. Eh oui. Quant à l'étymologie, ce changement de nom, c'est une énigme pour tous les théologiens. Mais à cette occasion, Dieu va forger Abraham. Il va devenir une personne totalement différente. Il devient finalement le grand Abraham. Vous voyez, on dit c'est le père des croyants. C'est bien sûr le père de la foi, un exemple à suivre, bien sûr. Il devient également le père d'une multitude de peuples, un exemple pour tous ceux qui veulent justement suivre les commandements de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan. Il commence par revendiquer notre identité. Et l'une des sources d'encouragement pour chacun de nous, dans la revendication de Dieu envers notre identité, est qu'il veut pouvoir nous utiliser pour que justement nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction. La Bible nous dit, et puis on le disons en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que pasteur, nous sommes sauvés pour servir les projets de Dieu. Alors quand Abraham est appelé par Dieu, il lui dit dans Genèse chapitre 12, verset 2, « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Dieu veut changer notre identité. Pourquoi ? Je viens de le dire. Pour que nous soyons une source de bénédiction vivante pour les autres. Celui que vous voyez aujourd'hui qui vous parle était totalement différent avant de faire une expérience personnelle de nouvelle naissance, avant que ma destinée ne soit changée. Alors le changement que veut imprimer Dieu dans notre vie, c'est une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis, avec difficulté ta relation avec les autres. Tu aimerais faire du bien, mais tu n'y arrives pas. C'est plus fort que tout, ta nature, et quelque part t'amène à faire des choses qu'ensuite tu regrettes. Tu regrettes amèrement parce que tu vois que ça amène le conflit. Mais si tu permets à Dieu de transformer ta vie, si tu permets à Dieu de faire le miracle en toi, parce que on ne peut pas se changer, tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas se transformer. Ce que l'on est, on l'est. Mais un seul peut nous transformer. C'est celui qui désire tout simplement prendre notre destinée dans ses mains. Faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Je ne sais pas comment le dire, mais je le dirai ainsi. Pour savoir si justement, on peut éluder cette question de la relation avec les autres, est-ce qu'on se sent de plus en plus seul? Est-ce qu'autour de soi, on a fait un grand vide ou pas? La réponse, elle est là, hein, tout simplement. Un deuxième personnage, Saraï, c'est la femme d'Abraham. Elle va devenir Sarah. La femme d'Abraham, Saraï, avait 90 ans quand Dieu va changer son nom en celui de Sarah. Saraï, elle avait une particularité. À l'époque, on pouvait même le traiter de malédiction. Elle était stérile. Elle était stérile. Quand elle avait à peu près 75 ans, elle s'imaginait même être un obstacle à l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, son mari. Et donc, elle va le persuader tout simplement de prendre Agar, qui est une servante qu'elle avait donc dans sa maison, comme seconde femme. C'est ce qu'il va faire. Et Ismaël, le père de la nation arabe, va naître de cette relation. Âgée d'environ 89 ans, Sarah a reçu de Dieu la promesse qu'elle-même, eh bien, mettrait un fils au monde. Ce qui arriva par un véritable miracle au cours de cette même année. Quand Dieu lui fit cette promesse, il va changer son nom de Saraï en celui de Sarah. Et ce changement de nom, eh bien, était quelque part quelque chose de subtil. Un Saraï, ça signifie ma princesse. Ma princesse. C'est un titre un peu personnel. Tandis que Sarah va devenir, ou ce qu'elle va devenir, signifie simplement une princesse. Une princesse. Donc Dieu dit dans Genèse 17, verset 16, « Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Sa vie change, là aussi également pour elle, de meurtrie, d'humilier, de ridiculiser. Elle devient une princesse. Alléluia! Elle devient également mère de la postérité de la promesse faite par Dieu à Abraham 25 ans plus tôt. Formidable. Eh oui. Alors je ne sais pas, peut-être que vous vous sentez humilié dans cette société sans cœur, où on devient quelque part quelque chose d'impersonnel, un numéro. Eh oui. Mais Dieu peut vous transformer. Faire de vous une Sarah, c'est-à-dire une princesse, quelqu'un. Amen. Lui seul peut vous donner ce titre. Alléluia. Eh oui. Est-ce qu'il faut espérer quelque chose de l'être humain? Non. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend appui sur la chair humaine. Il ne peut pas. L'épanouissement dont vous, après lequel vous soupirez peut arriver. Mais il n'arrivera que par l'œuvre, ce qu'on appelle l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Triunité de Dieu. Il faut demander à Dieu qu'il vienne faire sa demeure en vous. Et là, vous verrez un changement s'opérer. Vous deviendrez une Sarah, amen, un Sarah, puis Dieu aussi. En tout cas, un prince ou une princesse, quelqu'un qui a une vie transformée, qui devient quelqu'un, qui a une identité propre. Alléluia. C'est valorisant, la Bible, la parole de Dieu, vous croyez pas? Le troisième personnage, c'est Jacob. Il va devenir Israël. Hein. Alors, le petit-fils d'Abraham et de Sarah, c'est lui, il s'appelle Jacob. Jusqu'au jour où, dans un épisode assez étrange et particulier, parce que c'est ce que nous voyons, il va lutter avec Dieu. Et pour finir, après une nuit de combat, voilà que Dieu change son nom. Jacob signifie... celui qui prend par le talon, vous savez, celui qui veut supplanter. Allez, moi j'ai rajouté usurpateur, trompeur. Parce que. Il en a fait le garçon, hein. Et comme si quelque part il essayait de naître avant son frère jumeau, Ésaü. Alors un jour, alors qu'Ésaü rentrait après une journée de chasse, il était affamé, il était fatigué, il était, excusez-moi, au bout du rouleau. Des fois ça ne vous arrive pas d'être un peu au bout du rouleau, là, prêt à accepter tout et n'importe quoi. C'est ce qui se passe pour lui. Jacob, lui, faisait cuire, parce qu'il était plutôt un gars hein, de la maison, lui, c'était pas trop la vadrouille, mais plutôt dans la maison, il faisait cuire un plat de lentilles. Hein. Alors, son frère s'arrête et lui dit, donne-moi de ces lentilles, de ce plat, donne-moi, hein, parce qu'il sentait le fumé, là. Hein, peut-être qu'il avait également accompagné de quelque chose de particulier, un petit perdreau, je ne sais pas trop quoi, mais ça devait sentir bon. Et puis, c'est pas Maître Renard par l'odeur alléchée, mais c'était donc Ésaü par l'odeur alléchée, ce plat de lentilles, ce roux, eh bien, lui faisait envie. Il avait faim, il avait un creux. Hein. Alors, avant de servir son frère ses lentilles, Jacob lui fait jurer de lui céder son droit d'aînesse. Eh oui. Quelque part, il essayait de lui dérober ce qui lui appartenait. Il n'est pas réussi à sortir le premier, parce que l'héritage le plus important venait, justement, a été donc donné à celui qui sortait le premier, qui était l'aîné, bien sûr. Alors il va, quelque part, lui voler. Il va lui extorquer son droit d'aînesse. Et il prend sa victoire, je dirais, sur sa tardive sortie du sein de sa mère. Hein. Jacob, quelque part, moi je l'imagine comme cela, il supportait pas d'être le second. Ben oui. Il fallait qu'il soit le premier. Vous en connaissez des gens comme ça? Eh oui, eh oui. Peut-être ça ressemble à quelqu'un qui est au milieu de nous. Bon, certainement. Allez. Mais est-ce que tu ne désires pas ne pas avoir le premier rôle? Pour une fois au moins. Parce qu'en ce qui concerne le salut, la nouvelle naissance, tu ne pourras jamais être le premier. C'est-à-dire avoir le dessus sur Dieu. La Bible nous dit que nous naissons ou nous renaissons par un miracle qui s'opère en nous. Ce n'est pas selon notre bon vouloir, comme tu le disais, mais c'est parce que Dieu, lui, nous transforme et nous change. Il fait de nous une nouvelle créature. Vous savez que être et désirer toujours vouloir être le premier sur le devant de la scène, c'est un piège de notre humanité. Eh oui, vouloir à tout prix être le premier. Le premier à savoir, le premier à parler, le premier à être vu, etc., 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 etc. Alors Jacob, lui, il n'acceptait pas d'être le second. C'était pour lui une idée fixe au point qu'il va y avoir une scène de fourberie également qui va se jouer. Son père, donc, était vieux, il était pratiquement aveugle. Et Rebecca, donc sa femme, la mère de Jacob et Ésaü, eh bien, qui est une fourbe elle aussi, excusez-moi, mais va persuader Jacob, parce que c'était son chouchou, hein, eh oui, de se faire passer pour Ésaü. Donc il va se déguiser, il va se grimer, il va essayer de prendre la voix de son frère, il ne va pas y arriver, bien sûr, parce que le père va dire, mais c'est bizarre, hein, eh oui. Mais il va obtenir de la part du père la bénédiction qui découle du droit d'aînesse. C'est important, l'héritage est pour lui, là, ça y est. Alors lorsqu'Ésaü va découvrir, quelque part, le coup tordu qu'on lui a fait, parce que c'est ça, il n'a qu'une idée, c'est de faire disparaître Jacob. Il faut le faire disparaître. Et oui. Dès qu'Isaac, mon père, est mort, j'attaque. Et je vais y arriver. Alors Rebecca, la maman, elle veut protéger son chouchou, bien sûr, hein. Elle entend cette menace et là, elle fait partir donc son fils Jacob. Et en cours de route, Jacob, une nuit, a une vision. Une échelle qui reliait la terre au ciel, comme ça. Des anges qui montaient, qui descendaient. Et voilà que l'Éternel lui promettait toutes les bénédictions de l'alliance qu'il avait conclue avec son grand-père Abraham. Pas rien. Eh oui. Alors Jacob n'a pas pu se mériter cette seconde bénédiction, qu'il n'a mérité la première de la part de son père, bien sûr. Jacob a bénéficié, je dirais, d'un acte de clémence de Dieu. Quand la Bible nous dit que Dieu est amour, si nous savions, si nous pouvions comprendre, jusqu'où va l'amour de Dieu? Dieu est amour. Plus tard, alors qu'il revient vers son frère, pour se réconcilier avec lui, Il va lutter toute une nuit avec Dieu et Dieu en profite à ce moment-là pour changer son nom. Dieu a changé son nom pour symboliser la transformation qui s'est opérée à lui dans la vie. Son nom a été changé de Jacob en Israël, ce qui signifie non plus usurpateur, trompeur et tout ce que vous voulez, mais lutteur avec Dieu. C'est ce qu'il a fait. Cet homme ne sera plus connu comme celui qui est trompeur, mais comme celui qui a lutté avec Dieu et qui a surmonté la confrontation. Dites-moi, est-ce que vous pensez mériter quelque chose de la part de Dieu ? Vous savez que Dieu ne nous doit rien. Mais nous, par contre, nous lui devons même l'air que nous respirons. Ça coûte combien ? La santé. Ça coûte combien ? C'est pas un dû. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de nous bénir. Amen. Alors on ne mérite pas. On ne mérite rien. Mais Dieu veut agir dans notre vie pour notre bien. Il veut nous attirer tout simplement hors des ténèbres, hors de ces chemins dangereux, hors de ce chemin de perdition, tout simplement parce qu'il nous aime. Il veut faire de nous une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'il veut nous accorder son pardon, sa grâce, et faire de nous des êtres sauvés, régénérés. Et il veut nous accorder la vie éternelle. Je ne savais pas ce que c'était, moi, il y a longtemps. Pendant près de 30 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et puis un jour, j'ai découvert que ce Dieu que j'avais méprisé, contre qui j'avais levé le poing, j'avais souvent tourné en dérision les choses de Dieu. J'ai découvert que ce Dieu, malgré tout cela, il m'aimait. Quand j'ai vu défiler le film de ma vie, je peux vous dire que j'en ai frémi. D'abord, j'ai dit, Dieu me connaît. Oh, les paroles que je retrouvais dans ce film de la vie que je voyais passer devant moi, j'ai compris et j'ai réalisé une chose. C'est que malgré tout ce que j'avais fait, Dieu me disait, je te pardonne, repends-toi. Et j'ai compris que c'était par pure grâce, mais certainement pas parce que moi je voulais. Non, non, j'avais horreur des choses de Dieu. Mais parce que lui me voulait pour lui. Il voulait me sauver. Alors la vie de Jacob va être secouée. C'est le moment crucial de sa vie. Jusque-là, il s'était fié à ses stratagèmes, à ses mensonges, à son intelligence. Vous savez, il était super là-dessus. Hein. Puis il va apprendre maintenant, eh bien que son énergie ne peut pas prévaloir contre Dieu, qu'il doit se soumettre en recourant justement à la prière pour obtenir la bénédiction dont il ne peut pas se passer. Amen. Est-ce que vous avez déjà prié Dieu ? Moi, je ne l'avais jamais fait. Mais vous savez que la prière, ça peut être simplement « Oh Dieu, aie pitié de moi. Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, secours-moi. Guéris-moi. Transforme mon cœur. » Ça peut être simplement cette prière-là. « Oh Dieu, aie pitié de moi. Transforme mon cœur, que je sois un autre personnage. Je supporte plus ce que je suis. » Amen. Ça peut être ça, tout simplement. Alors, à partir de ce moment, Dieu va pouvoir travailler particulièrement dans votre vie. Mais il faut être sincère avec Dieu. Pas venir en revendiquant, « Oh, si je suis comme ça, c'est parce que c'est la vie. » T'as vu de quoi je suis entouré ? Non, c'est pas ça. Tu as besoin de toi. De venir, tout simplement, avec un cœur contrit et de dire Dieu, Dieu ait pitié de moi. Amen. Pour Jacob, malgré ses échecs, malgré ses efforts pour tenter de faire les choses à sa manière, certains ont réussi, d'autres pas. Il a payé cher quelquefois, bien sûr. Mais la main de Dieu était sur lui. Amen. J'aurais dû mourir plusieurs fois. J'aurais dû mourir plusieurs fois. De mort violente. Empoisonné, asphyxié. Je m'en suis tiré à chaque fois. Et je disais, je suis né sous le bol étoile. C'était comme ça que je vivais, je ne savais pas. J'ignorais que Dieu avait décidé tout simplement eh bien, de me préserver pour un jour m'amener simplement à cette confrontation avec lui où je suis un miséreux. Je ne suis pas grand-chose. Une vapeur. La peur, ça part vite. Hein. Il n'y a plus rien derrière. Mais Dieu me voulait pour lui. Pour un but. Il voulait me transformer, faire de moi une nouvelle créature pour ensuite pouvoir annoncer le message de la bonne nouvelle. L'évangile. Alléluia. À la fin de sa vie, Jacob va reconnaître que le début de sa vie a été entaché de péché, qu'il avait manqué de droiture envers Dieu. Mais je dirais qu'il est l'exemple par excellence de l'homme charnel, aux nombreux défauts, même si ça vous déplaît, nous avons de nombreux défauts, mais qui, une fois complètement régénéré par la grâce imméritée de Dieu, et tout cela, je dirais, en même temps que son changement de nom, fait que on devient quelque part un homme, une femme comme ça. Amen. Simon Pierre, ça vous dit quelque chose? Simon va devenir Pierre. Dès que Jésus a rencontré Simon, il a changé son nom qui est en Céphas, en araméen, et Pierre en grec. Alors ces deux noms signifient tout simplement, vous savez, la roche, le rocher, hein, la pierre solide, voyez. Et Jésus a confirmé ce nom après que Pierre eut admis quelque chose de particulier. Jésus s'adresse aux disciples et leur dit « Qui suis-je au dire des hommes ?» Oh, les uns que tu es Élie, le prophète, les autres, etc. Bon, mais il leur dit « Non, non, vous taisez-vous. Allez, vous, personnellement, ne me dites pas ce que les autres rapportent, mais vous. » Et là, il y en a un qui se lève au milieu de tous et qui dit « Mais tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et celui qui dit ça, c'est Pierre. Et là, il va lui donner un nouveau nom. Il va l'inscrire dans un nouveau destin. Pierre, Céphas, tu deviens Pierre. C'est-à-dire tu deviens un roc, tu deviens un leader. Tu vas être une marque de stabilité pour les autres. On va regarder après toi. On dira, il faut le suivre, il faut être comme lui. Amen. C'est important. C'est un changement important. Hein, il était pêcheur. Et cet ouvrier devient, après une transformation, un pilier de l'Église. Amen. Un prédicateur formidable. Moi, j'aimerais avoir autant de conversions en une seule prédication. Le jour de la Pentecôte. Eh oui, formidable, eh oui. Alors, est-ce que vous n'aimeriez pas devenir quelque chose de solide? Un roc. Il y a tellement de choses qui nous éloignent, qui nous détournent du but de notre vie. Vous pouvez avoir de beaux propos, mais est-ce que nous allons jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes capables de tenir la route? Il y a ensuite un dernier personnage que je vais prendre, c'est Saul. Saul de Tarse. Il va devenir Paul. Il va être, je dirais, à la clé de la propagation de l'Évangile. Lui aussi va changer de personnalité. Saul de Tarse, ville de Turquie aujourd'hui, à partir de sa conversion sur le chemin de Damas, il va être appelé Paul. Et la Bible nous dit, expressément que son nom a été changé, mais on ne va plus l'appeler Saul de Tarse. On va l'appeler Paul. Hein? Vous savez que cet homme était parti pour persécuter, pour arrêter les croyants. Il était convaincu que ce qu'il faisait était bien. Vous vous rendez compte? Mais Dieu avait un plan, un autre plan pour lui. Il l'avait choisi pour contribuer à la construction du royaume de Dieu ici-bas. Saul de Tarse devient Paul, une nouvelle identité qu'il reçoit avec une nouvelle mission. De bourreau, il devient disciple. La vie de Paul a été complètement changée. Pour toujours, bien sûr, à partir de ce jour-là. Vous savez, la conversion, ce n'est pas quelque chose qui dure un instant. Quand je me suis converti, on m'a dit, toi, dans 6 mois, tu ne redeviens comme tu étais avant. Et ça les a rangés. J'étais délégué syndical. À partir de là, j'ai pu tenir mon rôle de délégué syndical. Hein. Donc j'avais un autre rôle. Je me mettais à genoux devant Dieu, je priais. Et les choses d'elles-mêmes, eh bien, elles changeaient. Alors, cette transformation, pour lui, n'est pas venue pendant un temps de crise ou de solitude. Quelquefois, il faut passer par la crise absolue pour pouvoir tourner les regards vers Dieu et crier après lui. Cette expérience est venue ensuite. Mais Paul, on le sait, a vécu des choses extraordinaires. Il y a eu des moments d'épreuve, des moments difficiles pour lui. Ça va commencer par ce chemin d'Amas. Il va être aveugle pendant 3 jours. Peut-être êtes-vous également, vous aussi, dans un temps de crise personnelle. Peut-être avez-vous déjà été brisé. Eh oui. Peut-être que Dieu est en train de vous briser intérieurement pour qu'il puisse vous guérir. Il m'arrive souvent de dire, mais vous savez, des fois, il faut attendre d'être au fond pour pouvoir rebondir. Et tant qu'on a des ressources, tant qu'on a un petit peu d'énergie, oui, un petit peu de Dieu, mais pas trop, je m'en sortirai. Quand on est vraiment au bout du rouleau, quand on n'a plus rien d'autre, quand on dit, mais là, il n'y a plus que Dieu, on est surpris de dire, mais tu te rends compte, il était au bout, complètement au bout. Regarde comment il est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a pu, justement, visiter cette personne, la transformer, faire le miracle. Amen. Alors, difficile sans doute à admettre, mais c'est ainsi que Dieu peut quelque part couper dans notre vie et monter certaines choses pour que notre vie puisse produire du fruit. Ce que la Bible appelle du fruit digne de la repentance. Où on ne revendique plus, mais on se place tout simplement derrière le Seigneur, derrière ce que sa parole nous dit, hein, ce que dit ce texte également d'Apocalypse 2:17. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Notre nom, il est pour l'éternité. Caillou blanc, je ne vais pas m'y étendre, mais simplement dire 2-3 choses dessus. Ça a été l'objet de nombreuses explications. Premièrement, un caillou blanc était un signe d'acquittement dans un procès. Deuxième chose, les vainqueurs des Jeux Olympiques recevaient ces pierres blanches sur lesquelles était gravé leur nom. Ils l'avaient, c'était le trophée. On utilise également une pierre rectangulaire appelée la tessera pour faire une alliance entre familles. Puis on l'a brisée en deux. Chaque partie de la famille prenait la sienne, bien sûr. Et quand on se retrouvait, eh bien, il y avait, je dirais, un accueil particulier quand on avait l'autre morceau de la pierre. Également, lors d'une élection, le citoyen déposait un caillou dans l'urne, blanc ou noir, selon qu'il approuvait le candidat ou non. En tout cas, quel que soit l'acte symbolique, il semble clair que c'était une récompense donnée pour le vainqueur. Est-ce que vous voulez continuer à être perdant ou est-ce que vous voulez enfin être vainqueur? Quand je dis vainqueur, attendez, c'est quelque part être approuvé de Dieu, accepté par Dieu, avoir son approbation. Que Dieu se réjouisse de votre vie. Parce que tout est là. Amen. Pourquoi un nom nouveau? Je dirais, c'est comme le nom d'adoption que Dieu nous donne. Sans Dieu, nous sommes sur cette terre dans la condition d'un orphelin. Mais Dieu choisit de se sacrifier sur le bois de la croix. Il choisit de nous racheter. Et nous devenons une nouvelle créature lorsque nous croyons au sacrifice de Jésus pour nous-mêmes. Tout à l'heure, j'avais demandé à Emmanuel s'il connaissait ce chant. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Vous le connaissez quelques-uns? Et oui, nous avons changé de royaume. Pour ma part, c'est cela. Et j'aimerais que vous fassiez la même expérience que moi. Hein, avoir votre vie changée, transformée. Changer de destinée. J'appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. J'ai reçu un nom nouveau. Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus? Si c'est oui, eh bien vous faites partie des gens les plus heureux de la terre. Réjouissez-vous. Alléluia! Ou bien alors, ces choses sont totalement encore inconnues pour vous. Si c'est le cas, il n'est pas trop tard. Je dirais même qu'il est bon que vous sachiez ce que dit la parole de Dieu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Certains essayent de se racheter à la fin de leur vie. Ils font le plus de bien possible en disant, Dieu en tiendra compte. Le plus important, ce n'est pas ça. Faire du bien, il faut faire du bien. Mais le plus important, est-ce que tu es passé par la nouvelle naissance? Est-ce que Dieu te considère maintenant comme sa fille, son fils? Non pas comme l'une de ses créatures. Amen. Quand on est, de manière physique, quand on vient à la vie, on reçoit un nom. Notre nom est inscrit dans un registre, le registre d'état civil. D'accord? Et Dieu lui aussi, je dirais qu'il a un registre. Un registre dans lequel il inscrit notre nouveau nom. Et ce livre, il s'appelle le livre de vie. Un jour, quand le Seigneur reviendra, ce livre sera ouvert. Et on y lira Bernard Villa. Ce sera le nouveau nom. Il va dire tout simplement, entre dans la joie de ton maître. N'aimeriez-vous pas entendre votre nom être prononcé par Jésus? Il va vous dire, entre maintenant dans la joie de ton maître. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que c'est la plus belle des choses. Savoir où nous allons. Je sais où je vais. Je sais ce qui s'est passé dans ma vie. Je sais que j'ai été placé au bénéfice de la grâce de Dieu. Je sais que Dieu m'a pardonné. J'ai plus cet épée de Damoclès sur la tête. Je n'ai plus peur ni de l'obscurité, ni de l'aube du matin. J'en connais qui se couchent en disant « Quelle journée d'enfer j'ai vécu !» Mais demain, il faut y revenir. La Bible nous dit qu'avec Dieu, c'est un nouveau, c'est un renouveau, c'est un commencement des choses nouvelles. Non pas qu'il n'y aura plus d'épreuves, plus de difficultés, mais Jésus sera avec vous pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous sortir de l'embarras, pour vous rendre heureux, heureuse. Soi-même, on n'y arrive pas. Et Dieu le savait. C'est pour ça qu'il nous a donné son Fils. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire une expérience personnelle avec Jésus? Vous voulez qu'on courbe nos têtes, simplement? Seigneur, merci parce que tu prends soin encore de nous parler, de nous montrer qu'il y a une solution pour toute vie. Même l'homme le plus violent peut devenir une nouvelle créature, quelqu'un de doux, quelqu'un de bon. Le jaloux peut devenir quelqu'un de conciliant. Le voleur peut devenir honnête. Seigneur, étends ta main. Dans cet auditoire, je le crois, tu veux faire une œuvre nouvelle, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Tu as choisi simplement cet après-midi de lui parler, parce que tu as quelque chose pour lui ou pour elle. Je te demande de faire ton œuvre maintenant. Peut-être même un de tes enfants a besoin de devenir encore plus fort, de vivre une expérience encore plus intense avec toi. Alors je te demande simplement de visiter, de passer dans les rangs et de visiter chacun et chacune cet après-midi. J'aimerais te demander simplement de visiter chacun sur sa chaise l'après-midi. Tu as des projets. Et peut-être quelqu'un soupire et disant, Seigneur, mais tu attends plus de moi. J'ai besoin de toi. Et cet après-midi, tu veux lui dire, je te visite. Tu as ouvert ton cœur. Tu as manifesté ta soif. Tu ne veux plus essayer par toi-même, par tes forces. Mais tu veux me faire confiance. Alors oui, je viens. Voilà ce que te dit, Seigneur, je viens. Je viens et je te visite. Laisse-moi entrer en toi. Laisse-moi prendre toute la place. Quelqu'un, peut-être, en a marre d'être mis au rebut, de ne plus exister, ne plus avoir d'identité. Le Seigneur veut que tu retrouves une identité. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut te donner ce nom nouveau. Il veut te donner des certitudes. Il veut te donner de l'assurance dans la vie. Il veut te rendre fort, forte. Fais-lui confiance cet après-midi. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et dis-lui, viens dans ma vie. Fais ton œuvre, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il va le faire. Il va le faire parce qu'il s'y est engagé. Invoque-moi et je te répondrai. Alors il te répond cet après-midi. Il te visite maintenant. Ne redoute pas l'avenir. N'aie pas peur de ce qui sera ensuite. Fais confiance à celui qui cet après-midi s'approche de toi. Tu as fait une démarche toi-même en venant ici. Lui-même fait la démarche en venant vers toi. Il te visite. Crois-le simplement. Et bénis-le dans ton cœur. Amen. Seigneur, tu as promis, tu agis maintenant. Je te bénis parce que je crois.